Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à tous, je vous propose que nous ouvrions notre Bible dans le Nouveau Testament. Et nous allons donner une suite à ce que nous avons déjà médité dans le temps. Oh, il y a déjà quelques mois que nous avons commencé ce que j'appellerais tout simplement une étude, une série sur les délivrances divines dans un domaine tout à fait particulier dans le monde de cette dimension ténébreuse et occulte. Alors à cela, je voudrais simplement le rappeler, puisque on avait déjà évoqué cet enseignement de Jésus sur la maison balayée et ornée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait déjà quelques mois. On avait aussi parlé de la prière, une prière qui peut être contestée par les puissances mauvaises. On avait également évoqué la situation de la femme courbée depuis X années, 18 ans, et il nous est dit qu'elle était tenue par Satan et Jésus a délivré naturellement. On s'était arrêté également par deux fois sur le forcené de Gadara. C'est un cas, un extrême. Et puis l'enfant épileptique également, Paul confronté avec ce magicien Elimas, qui était titré tout simplement « Dénoncer l'invisible ». Et Simon le magicien, ça vous dit, c'est des noms qui vous disent quelque chose naturellement. Nous avions fait une étude au moment de Noël, ou dans cette période, sur les démons, voilà. Parce qu'il en est parlé dans la Bible de tout ça, et également un message sur la magie, un message sur la superstition. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir une nouvelle page. Alors tout cela, c'est consigné, naturellement. Il y aura un coffret qui sera fait autour de tout cela, autour d'une quinzaine de sujets bibliques. Et aujourd'hui, donc, je vous disais, nous allons ouvrir le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. Et nous allons lire donc un récit fameux qui traite de la question délivrance, parce qu'il s'agit bien de cela. Moi, je ne veux pas faire de démonologie. C'est la doctrine des démons, vous comprenez, la démonologie. Mais moi, je ne veux pas en parler de ça. Je veux parler de la puissance libératrice de Christ. C'est plus positif, vous ne pensez pas? Ouais, il faut choisir ses mots. Il y a des gens qui se régalent en parlant que de ça. Mais moi, je veux parler de Jésus principalement, qui délivre tous ceux qui sont aux prises avec des forces de tourment, comprenez, qui sont liés d'une manière ou d'une autre. Alors, on va mettre les choses dans le sens positif. Alors, c'est un petit texte qui nous est rapporté dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16 et au verset 16. Vous verrez, c'est très bref, c'est très court, mais il y a tellement de choses à dire sur le sujet. Alors, c'est Paul qui dit cela, ou le chroniqueur, qui n'est autre que, en effet, Luc. Alors, comme nous allions au lieu de prière, une servante, traduisez une esclave, parce que dans les traductions traditionnelles, c'est une esclave qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut, et il vous annonce la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Voilà. Alors, vous l'avez lu et relu, ce passage. Mais donnons une explication à ce que, en effet, la Bible nous enseigne sur cet événement et bien d'autres, naturellement. Je voudrais tout simplement titrer cette méditation, ce message, « Vérité équivoque ». Il n'y a pas d'équivoque dans la vérité. La vérité, c'est la vérité. Il n'y a rien d'autre. Mais nous allons découvrir que si la vérité vient de Dieu, parfois édulcorée ou trafiquée par les hommes, en tous les cas, elle peut être déformée, dénaturée et manipulée par celui qui est appelé l'esprit du mensonge. Alors, ceci dit, nous retrouvons les apôtres qui sont en mission. Entre autres, il y a Paul et il y a Silas, c'est-à-dire Sylvain, si vous aimez mieux. Et ils vont faire une étrange rencontre. Il nous est simplement dit une femme à l'esprit de Python. Alors, pour le lecteur qui n'est pas habitué, on dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut signifier, une femme à l'esprit de Python? Si j'explique, une femme, servante, esclave, qui est douée ou qui est animée de facultés extra-naturelles de dire, ou alors, un autre mot, de deviner l'avenir. Comprenez mieux maintenant? Parce que les choses sont et peuvent être comprises de cette manière. Une divineresse, si nous voulons ajouter. Le nom de Python, comme nous l'avons devant nos yeux, va avoir une signification. C'est ce que c'est que les pythons, vous savez, c'est ces serpents qui vous embrassent très fort. Hein, voilà. Alors l'écriture est un peu différente, mais enfin bon, vous allez voir qu'il y a une signification. Donc le nom de Python était celui qui désignait un célèbre sanctuaire antique situé à Delphes. C'est de la mythologie. Mais comme finalement l'époque de Paul, l'époque de Jésus et les époques avant et même après étaient imprégnées de légendes et de mythologies. L'évangile en venant a balayé, enfin, en tous les cas, a fait une trouée considérable dans toutes ces gesticulations de croyances, de superstitions du monde antique. Donc, un lieu situé à Delphes, symbolisé par quoi? Par un serpent. Il y a, dans cette dérive des esprits humains, cette mythologie qui est attribuée à Apollo, le dieu grec, qui se serait incarné en serpent. Et dans ce lieu, à Delphes, on aurait construit un sanctuaire. Et là, il y aurait eu naturellement toute une foule de gens qui seraient venus là, dans ce but de connaître son avenir. Et il y avait des divineresses, femmes à l'esprit de Python, et beaucoup de ventriloques. Enfin, moi, c'est les commentaires que j'ai pu lire autour de cela. Et comme aujourd'hui, comme hier, on s'aperçoit que ça, c'est quand même une friandise chez l'homme de savoir ce qui va se passer demain. Or, Jésus nous dit dans le sermon sur la montagne, ne vous inquiétez pas du lendemain parce que chaque jour suffit à sa peine. Là, les choses sont classées sur le plan de l'évangile. Mais je le resitue dans l'histoire, naturellement, avant d'aller plus loin maintenant. À dire de suite, parce que il faut rester naturellement dans la compréhension claire et simple, tout simplement que la divination, comme nous allons en parler dans un instant, est une science occulte. C'est-à-dire, c'est caché. C'est secret. Mais ce sont des choses où les gens venaient pour savoir, mais en se cachant. Comme aujourd'hui, ça reste encore quelque part très mystérieux tout cela. Bien que tous ceux qui s'y adonnent ont pignon sur rue, font de la publicité sur Internet, dans les journaux, dans les horoscopes, dans les journaux de télévision, etc., etc. Voilà. Mais c'est quand même, c'est avant tout une science occulte. Ce n'est pas anodin. C'est même dangereux. Je dirais que dans notre monde, si vous permettez, c'est une marée noire. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? De tous les temps, je l'ai dit il y a un instant, je le répète, la curiosité des hommes a été piquée quant à savoir son avenir. Voilà. Dans le domaine de l'amour, dans le domaine du succès, dans le domaine du travail, dans le domaine de ceci et cela, dans le domaine de aussi vaste que la convoitise de l'homme est grande, est infinie peut-être. Cette recherche du futur, proche ou immédiat, ou lointain, s'offre sous divers aspects et procédés. Il y a cette chose tellement familière à notre monde de l'horoscope, par exemple. Voilà. Vous n'avez pas un journal dans la presse où il n'y a pas l'horoscope. Voilà. L'astrologie, les astres, lire dans le ciel. Il y en a d'autres qui lisent dans la Bible, et là c'est beaucoup plus clair. Hein. Il y a également la chiromancie, je vous expliquais tout ça, qui présente l'avenir très souvent, parce que l'approche n'est pas brutale, hein, attention, qui présente l'avenir sous une bonhomie inoffensive et rassurante. Ah ! Qui aurait l'idée de dire que c'est un véritable danger qui nous met en contact avec le monde infernal et le monde ténébreux ? Ah, mais c'est rien tout ça. C'est rien. Et les gens sont confortés parce que quelquefois, eh bien, ça dit des vérités. Ça annonce des choses qui va ancrer finalement le curieux, ce que j'appelle ça comme ça, le curieux, sur des choses où il va trouver des éléments de son passé en disant, mais c'est ça. Sur son présent, mais aussi sur son avenir en disant, ben, ça s'est réalisé. Alors attendez, hein, attendez la suite. Et présenté naturellement, offert sous le manteau pompeux de science. Et on nous dit de dire que c'est une science occulte. Voilà. Les sciences. Science, qu'elle se nomme clairvoyance, télépathie, ou tout simplement bonne aventure. On est loin de la gitane qui, là, eh bien, vous prend la main et puis vous dit, voilà, ça existe encore, hein. Mais aujourd'hui, ça s'est drôlement modernisé, tout ça, hein. C'est une véritable industrie. C'est un empire qui règne sur le monde. Avec, figurez-vous, un chiffre d'affaires. Je vous le dis pas, hein, mais c'est considérable. Ça rivalise, finalement, des budgets nationaux de certains pays. C'est quand même assez étonnant. Alors, nous voyons que tout cela, eh bien, le danger est là. Le danger est la séduction qu'il peut y avoir, parce que quand on est accroché à ça, on a du mal à s'en défaire. Et effectivement, sous des apparences de dire des vérités. De dire des vérités. Et avant d'aller plus loin, je voudrais quand même rappeler un fait. Que Dieu est appelé Dieu dans la Bible. Que le diable est appelé le diable dans la Bible. Que ce sont des réalités invisibles, mais elles sont quand même, finalement, eh bien, réelles. Ce sont des mondes invisibles, mais bien réels. Et quand la Bible, dans l'Ancien Testament, et avec beaucoup plus de profusion, eh bien, nous en parle dans le Nouveau Testament, parce que Jésus est venu faire une chose, c'est vaincre tout cela, dénoncer, apporter la lumière, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, vous comprenez déjà un peu les choses, et on s'aperçoit que Jésus va le nommer esprit de mensonge, qui se déguise en vérité spécieuse. Alors, j'explique l'adjectif. Qui a l'apparence de la vérité, qui a les formes de la vérité, mais qui n'a pas le fond de la vérité parce que ce n'est pas la vérité, vérité spécieuse. Vérité détournée, vérité dangereuse. Je voudrais vous rappeler, parce que ça a été un peu la conduite dans toute notre série délivrance, pour informer les gens, pour informer les chrétiens aussi, si tenté était quelquefois de fermer notre Bible et d'aller voir un petit peu ailleurs d'autres choses, parce que vous savez que l'herbe est plus verte ailleurs. Hein. Voici quelques verbes qui caractérisent l'action satanique. Asservir. Et vous retrouverez des textes et des histoires dans la Bible. Le mot asservir, asservissement, privation de la liberté, esclavage. Asservir, désunir. Là, il a fait fort dans notre monde aujourd'hui. À commencer par désunir les familles. Décourager, démoraliser les gens. Où on perd véritablement l'espérance et l'espoir. Contester, c'est-à-dire les révolutions. Les querelles, les disputes. Mentir, il est le menteur depuis le premier jour, il ne se tient pas dans la vérité, nous dit Jésus, dans Jean chapitre 8 et verset 44. Le tentateur, il tente les hommes, pour voir s'il y a peut-être une petite amorce de convoitise et les embarquer là où il veut, les séduire. S'il ne le fait pas par la violence, il va le faire par la douceur, mais le résultat est le même, et il nous connaît très bien là où pouvons-nous mordre à l'hameçon. tourmenté. Ben, le gadarénien, hein, tourmenté jour et nuit. Il vivait dans les sépulcres et il se meurtrissait avec des pierres. Violenté de toute nature. Accusé, l'accusateur des frères, Apocalypse. Agité, cet enfant épileptique, vous savez, qui tombe par terre. Effrayé, terrorisé et tyrannisé. Corrompre, pour que le meilleur devienne le pire. Lié, physiquement, moralement, spirituellement. Et puis, tué. Parce que l'aboutissement, c'est détruire, c'est ruiner et tuer pour en finir, tout simplement. Alors, ceci dit, eh bien, nous amène aux caractéristiques et à l'identification de ce que nous allons maintenant, eh bien, de ce que nous allons parler. Dans l'épître à Timothée, je lis ceci seulement, hein, Timothée chapitre 4 et les premiers versets. C'est destiné aux chrétiens, c'est destiné à nous, hein. Il nous est dit, mais l'Esprit avec un grand E, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint dit expressément que dans les derniers temps, c'est-à-dire, nous ne devons pas en être loin, quelques-uns abandonneront la foi. Ils ont eu la foi, mais ils ne l'ont plus. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs inspirés, se disant prophètes, se disant venir de la part de Dieu pour révéler des secrets au monde, enfin, voilà, des esprits séducteurs. L'extraordinaire a toujours fasciné les gens, hein. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi, et c'est peut-être encore davantage pernicieux, un autre exemple de vérité contrefaite qui se présente par des enseignements à caractère religieux. À Delphes, dont nous parlons tout à l'heure, où il y avait des pitis, pitonis, où il y avait des révélations soi-disant, il y avait toujours un caractère religieux derrière. C'était un caractère religieux mythologique, hein. Mais aujourd'hui, dans notre christianisme, il y a aussi ce mélange de l'occulto-religieux. Et on ne sait plus tellement où on se situe dans tout ça. On en a déjà parlé. Et nous avons besoin d'être avertis. Et nous voyons que ce caractère religieux qui inspire la piété, qui inspire la spiritualité, qui inspire la dévotion, voire le mysticisme et l'ascétisme, ben ça rentre un petit peu dans tout ça et en disant, bien, de vouloir être plus saint que saint, vous comprenez? Et de vouloir acheter, de vouloir mériter. Ça, c'est la grande voie, c'est l'autoroute des religions, hein, on peut dire. Ouais. Alors que nous sommes, et je dois le rappeler pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on est sauvés par la foi et par la grâce. C'est tout, hein? Voilà. Ça, il faut le dire. Toutes ces démarches dévotionnelles, nous pourrions dire, donnent naissance à des doctrines de démons. Paul a écrit tellement de choses dans ses lettres pour dire attention ici, attention là, méfiez-vous, il a bonne mine, mais attendez, c'est un loup qui se déguise en vêtements de brebis. Et ceci et cela. Toute sa vie, pendant à peu près 35 ans ou 30 ans de ministère, d'apostolat, de l'apôtre, il s'est battu contre ça. Et aujourd'hui, que dire devant les sectes, devant tous les gens qui marchent un petit peu les pieds au plafond, etc., etc. Il y en a, hein, quelques-uns. On entend des choses, quelquefois, on se dit, oh là là, hein. Et méfiez-vous parce que ça vient aussi chez nous, hein, parce que la livrée a une couleur d'évangélique. Mais attendez, il faut vérifier avec la parole de Dieu, il faut pas se laisser embarquer dans toutes sortes de choses. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler, parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité, il va pas nous conduire dans l'erreur. Ou alors, à ce moment-là, on est prêt à tout manger, hein, et même du poison, hein. Alors attention, doctrine de démon qui égare la conscience et l'esprit des hommes. Attention à la sincérité en une quelconque croyance, parce que ce n'est pas toujours synonyme absolument de vérité. Et nous allons le voir à travers l'histoire que vous avez devant les yeux. Il y a des gens qui sont sincères, c'est sûr. Ils sont sincères, mais alors vraiment dans l'erreur. Puis quand vous leur dites, vous allez voir un peu ce que vous allez prendre, hein, parce qu'il n'y a qu'eux qui ont raison. Hein. Eh oui. Pourtant, l'apôtre Jean nous dit ceci. Quand il écrit son épître, il dit « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu ». Nous avons besoin, plus que jamais dans les temps dans lesquels nous sommes, de discernement spirituel, d'acuité pour juger ce qui est vrai, ce qui est faux. Jugeons à travers le texte. Il nous a écrit, ces hommes, c'est la pythonisse, c'est la divineresse qui est en train de dire cela. Cette femme, elle dit ceci à l'écoute de tous les gens qui sont autour d'elle. Parce qu'il y a du monde, hein. Elle dit, mais ces hommes, Paul et Silas, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Ha ! Il n'y avait rien de plus vrai. Il n'y avait rien de plus vrai et il n'y avait rien de plus faux dans la nature et le fond et l'inspiration. C'est là où est le danger. Rien de plus véridique, mais attention, nous sommes appelés à vérifier la nature de l'inspiration. Je le répète encore une fois, la nature de l'inspiration. De quelle inspiration est cette personne qui parle au nom de Dieu ? Est-ce qu'elle se fonde, ou est-ce que son discours, est-ce que ses prophéties, est-ce que ses révélations, eh bien là, ont un fondement biblique ? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu ou c'est autre chose ? Quel est le but, le mobile de tout cela ? Jésus dit, dans les derniers temps, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, vous connaissez la suite, au point de séduire même les élus. Dans les temps dans lesquels nous sommes, nous avons intérêt d'attacher la ceinture de sécurité pour avancer, parce qu'il risque d'y avoir des chocs et des heurts. Et malheureusement, il faut bien le dire, nous avons eu parmi nous des amis, des frères, des sœurs, enfin quand je dis c'est la généralité, hein, des amis parmi nous, des chrétiens, qui aujourd'hui ne sont plus là, parce qu'ils ont été séduits, et c'était pas des moindres, voire même des pasteurs, sont partis là en dérive, en abandonnant l'essentiel et le fond de l'évangile. Partis parce qu'ils avaient besoin d'émotions, parce qu'ils avaient besoin de miracles, parce qu'ils avaient besoin de sensations, parce qu'ils avaient besoin, ils avaient la démangeaison de voir absolument le ciel ouvert tous les jours du matin jusqu'au soir. Eh oui, oh, mais il y en a un qui est capable de faire la même chose. Hein. Et ils l'ont fait. Et ils ont cru. Mais ils n'ont plus cru en Dieu. Et ça, je pense que, si j'insiste, c'est qu'il y a véritablement un danger dans les temps dans lesquels nous sommes. L'Esprit dit exprimement que dans les derniers jours, il viendra des... Voilà. Ces déclarations pseudo-spirituelles, les déclarations de la femme dont nous parlons il y a un instant, elles sont spirituelles, c'est le monde de l'esprit, mais c'est pseudo, c'est-à-dire c'est faux. Tout simplement, en cela, c'est qu'elles tendent à amoindrir, à rabaisser, à annuler la personne et l'œuvre rédemptrice et libératrice de Jésus-Christ dans la vérité, pourtant. Vous allez me dire, c'est une contradiction. Ben justement, c'est précisément le sens de l'équivoque dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que quand elle dit ceci, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Vous avez tous les ingrédients. Elle désigne des hommes qui sont appelés, d'en haut. Que celui qui est en haut, c'est le très haut. Et il vous annonce la voie du salut. Ouais, il n'y a rien à contester dans tout ça. On peut prendre ça pour argent comptant, il n'y a pas de problème. Mais vous allez voir que quelque part, même en disant des vérités, c'est pour détruire cette vérité-là, la vérité vraie. C'est pour la neutraliser, la détourner. Cette femme ne parle pas de Jésus. Elle parle du salut. Comme un terme qui peut être employé par autant les chrétiens comme par les païens. Salut. Voilà. J'ai failli me soigner, mais j'ai failli me noyer, mais j'ai eu mon salut. On pourrait dire à celui qui est venu me chercher dans l'eau. Voilà. Alors, le mot est générique, hein, on pourrait dire. Alors, on va voir un petit peu davantage. Donc, ces déclarations sont des fausses déclarations si nous ne vérifions pas ce qu'il y a derrière. Le seul moyen de s'y retrouver, c'est de revenir et de nous en référer à la parole de Dieu. Alors, les tests vont être faits. Il nous est dit que cette femme, elle fit cela pendant plusieurs jours. Quelle publicité pour Paul et pour Silas, en disant « Oh Seigneur, je te remercie, tu m'as envoyé une porte-parole, tu m'as envoyé un porte-voix, tous les gens, elle est connue dans la région, puisque finalement elle est connue comme une femme qui devine l'avenir. Tout le monde la connaît, tout le monde est venu vers elle au moins une fois ou plusieurs fois. Seigneur, mais qu'est-ce que je te bénis, tu te rends compte? Aucune opposition, au contraire, elle marche devant moi ou elle crie derrière nous et elle nous désigne comme les envoyés de Dieu pour apporter à toute cette contrée, eh bien là, dans la région de Philippe, eh bien, de nous faire finalement une publicité du tonnerre. Ils ne connaissaient pas la télé à l'époque, hein, ni Internet. Elle avait une voix, elle s'en servait. Eh oui. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. C'est étonnant. Et il nous est dit que Paul fatiguait. Alors, je vous expliquais le sens du mot fatigué. Excédé. Agacé. Irrité. Parce qu'à un moment donné, il a senti que l'esprit qui était en lui, l'esprit de Dieu qui était en lui, n'était pas l'esprit qui était dans cette femme. Ça ne correspondait pas. Comme Paul, quand il est arrivé à Athènes et qu'il a vu toutes ses idoles et tous ses autels dédiés à des dieux, et même à un dieu inconnu, on ne le connaissait pas, on a fait un autel quand même, pour lui faire plaisir, parce que comme ça, on n'oubliait personne. Mais toujours est-il que, quelque part, il y a eu comme un court-circuit. L'esprit qui est en nous, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, nous conduira toujours dans la vérité et nous donnera de reconnaître la vérité, quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Et là, il a été fatigué pendant 3 jours à lui seriner aux oreilles, excusez-moi le mot, hein, mais à lui crier dans les oreilles, voilà, c'est lui, c'est lui, c'est lui, écoutez-le, écoutez-le, enfin, il devait dire certainement quelque chose comme ça. Et il a senti qu'il y avait là comme... Il n'a pas pu la supporter. Et à un moment donné, il s'est retourné fermement et il a dit à l'Esprit, écoutez bien, à l'esprit avec un petit E. Il y avait le grand esprit de Dieu en lui, mais il y avait l'esprit impur chez la femme. Et il dira, je te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ, alors là, le nom de Jésus-Christ est prononcé, de sortir d'elle, et il sortit immédiatement. Écoutez, si on décode un peu les choses, c'est facile. Paul ressent ce mal-être qui va finir par le faire exploser. Il se retourne et il dit à l'esprit, l'esprit qui est dans la femme, cet esprit de divination, et je te l'ordonne au nom de Jésus. Il ne parle pas à la femme, il parle à l'esprit qui est en elle. Comprenez? Il ne s'en prend pas à la pauvre femme, c'est une misérable, hein, elle est esclave, elle est servante, ses maîtres font de l'argent sur elle, parce que elle aurait pu garder cet argent, mais comme elle était esclave, elle n'avait pas le droit. Tout l'argent qu'elle faisait, ça tombait, faisait le profit de ses maîtres. Alors au nom de Jésus-Christ, parce que c'est ça le mot qui est important, de sortir d'elle, il s'adresse au démon, et le démon sortit d'elle à l'instant même. Ça va? C'est compréhensible, hein? D'accord. Voici la grande révélation de la Bible, ou parmi d'autres. C'est un dévoilement du surnaturel, le divin et le diabolique. Et ça commence déjà dans le Jardin d'Éden, au chapitre 3 du livre de la Genèse. Ça commence là. Ça finit dans les dernières pages de la Bible, dans l'Apocalypse. La révélation de ces deux mondes antagonistes, en contradiction, en lutte, en combat à mort. Et c'est un combat cosmique dont nous, les petits bonhommes sur la Terre, nous ne voyons que le monde matériel. Mais au-dessus de notre tête, c'est l'histoire de Job, chapitre 1er, chapitre 2. Cet exemple de divination est une contrefaçon flagrante du surnaturel divin pour, en apparence, une proclamation de la vérité. C'est subtil. Et quand il nous est dit dans Genèse que le serpent était l'animal le plus rusé qui soit sur la terre, le plus rusé, le plus subtil, le plus sournois. Ben, nous en avons la démonstration. Parce que cet être impur qu'est le diable, il est capable de vous faire avaler du cyanure dans un bel emballage. Puis on va pas loin avec le cyanure. Hein. On s'endort, mais on se réveille plus. Hein. Tous les poisons les plus terribles qui existent sur la terre. Mais pour le faire prendre, c'est comme quand on était enfant. Vous savez, hein, avec l'huile de foie de morue, on avait droit à un bonbon. Hein. Bon. Ou avec autre chose, mais ça, les moins de 20 ans ne peuvent pas savoir, parce que, bon, ça, c'est la génération de ceux qui sont nés dans le siècle dernier, naturellement. Mais toujours est-il que il faut que ça soit bien avalé, parce qu'avec un enfant, c'est comme ça que l'on fait. Enfin bon, on est terrible quand même. Alors, proclamation de la vérité. Paul affirme dans 2 Corinthiens chapitre 11. Il nous dit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Et il n'est pas étonnant que ses serviteurs, dont cette femme faisait partie, dont cette pauvre femme faisait partie malgré elle, elle était possédée, elle était habitée par des esprits méchants, qui lui donnaient un don, qui pouvait être fort intéressant, mais c'était quand même un don diabolique. Et il nous est dit qu'il se déguise en ange de lumière, et ses serviteurs ne sont pas ses ministres, ben, sont comme lui, tout simplement. Alors, nous sommes avertis que l'ennemi peut se dissimuler même derrière la vérité, stratagème ô combien pernicieux. Et si nous ne sommes pas au fait de la situation, si nous ignorons les déclarations de la Bible, ce que nous enseigne Jésus, ce que nous enseignent les apôtres et ce que nous enseigne toute l'Écriture sainte, eh bien, moi, je peux vous dire qu'il est impossible de discerner ce monde occulte et tout le travestissement qu'il y a derrière. Les gens courent, les gens pensent que c'est de la puissance et que tout ça, ça vient de Dieu, mais ça ne vient pas de Dieu. C'est un détournement. Je voudrais simplement rappeler cette vérité biblique dans l'Ancien Testament. Je le cite quand même parce que nous rappelions ce que Deutéronome chapitre 18 verset 9, c'est ce que Dieu disait à Moïse pour que Moïse le dise au peuple d'Israël à la sortie du pays d'Égypte. Écoutez bien. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. C'est tout simplement la magie, l'occultisme et tout ça. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. On est dedans là, hein. D'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. On y est encore. Personne qui interroge les morts, c'est de la nécromancie. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Soulignez bien le qualificatif. Abomination. Il n'y a pas de mot plus fort. Exécration de la part de Dieu. Et les gens le font souvent innocemment, pensant qu'ils ne font pas mal. C'est une insulte au Créateur. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser les nations devant toi. On connaît la suite de l'histoire. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues, les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu, écoutez bien, ne le permet pas. Et j'ouvre une parenthèse. Frères et sœurs, on est peut-être sortis de l'occultisme ou d'une religion apparentée, où là il y avait le mélange, hein, l'occulto-religieux, etc., etc., d'une manière ou d'une autre. Bon. Mais quand on est chrétien, et là je veux le dire avec la plus extrême fermeté, on ne touche plus à ça. Nous, on a eu des exemples dans l'histoire de notre ministère où il y a des chrétiens qui voulaient... Ils ont tenté le diable. Ils savaient que c'était interdit. Ils savaient que c'était dangereux. Je peux vous dire que ça a été très, très, très vite. Parce qu'ils ne l'ont pas fait deux fois. On ne tente pas Dieu et on ne touche pas à ça. Alors, si vous avez l'habitude de lire votre horoscope, ben, vous en passez maintenant et vous demandez pardon à Dieu. Si quelque part vous êtes malade et que vous avez encore tendance à dire, eh bien, Seigneur, je t'ai prié, mais ça ne marche pas, je suis allé voir les médecins, ça ne marche pas, et que vous ayez entendu dire, eh bien, vous savez, moi, je connais quelqu'un, c'est une médecine douce. Vous tracassez pas. Vous allez voir ceci et cela. Eh bien, vous savez, vous êtes en danger, mes frères et sœurs. Vous êtes en danger parce que vous connaissez qu'il ne faut pas faire. Et soyez sérieux un peu. Où est votre foi? Allez dans le Seigneur ou allez dans les hommes? Et il y a des hommes qui peuvent nous conduire jusqu'au diable. Ça existe? Alors attention, je ne te le permets pas. Attention, c'est un danger avec une étiquette rouge et une tête de mort dessus. Bon. Mais je vous choque pas, hein. C'est moi qui dis ça, hein, mais... Car mise en contact avec des réalités invisibles dont le but inavoué, parce qu'on ne le dit pas, c'est caché, c'est pour ça que je vous ai dit c'est crypto, c'est caché, et et la ruine et l'égarement par le truchement d'accepter l'erreur bien travestie par l'excès de crédulité à défaut de discernement. On ne croit pas en Dieu, mais on croit d'une manière crédule à tous les mensonges de ce genre. C'est curieux quand même. Mes frères et sœurs, je reviens sur ce que j'ai dit. Croyez dans le Seigneur, croyez en moi, nous dit Jésus, croyez en Dieu et croyez en moi, et que votre cœur ne se trouble point, et comme tous les chrétiens sont en flottement par rapport à ce monde occulte, eh bien moi je le répète encore une fois de plus, c'est extrêmement dangereux pour vous, plus que pour les autres, parce que vous vous connaissez. N'y touchez pas, et si vous y avez, ou si vous avez des tendances à revenir un petit peu en arrière, parce que vous entendez quelque part le diable qui vous dit, mais vas-y, c'est pas grave, c'est rien. Eh bien écoutez, mettez-vous devant le Seigneur et demandez la délivrance et demandez-lui pardon. Parce que ça, c'est quand même, il y a des péchés hein, dans le monde, mais celui-ci, il pardonne pas, c'est terrible. Parce que c'est un monde de l'esprit, comprenez? Et nous, avec le Saint-Esprit qui est en nous, on ne peut pas. C'est pas possible. C'est pas possible. La propagande de la pythoniste, qui était un agent passif et abusé, je veux bien le croire, des mauvais esprits, elle dit, serviteur du Dieu très haut, il vous annonce la voie du salut. Et cela, cette parole a pour objectif d'induire la confusion et de laisser croire ceux qui écoutent à une communion possible entre la foi authentique et l'idolâtrie. Il y avait un temple à Piti, là. Il y avait un temple à Delphes. Hein. C'est de l'idolâtrie, ça. De laisser croire qu'il est possible de conjuguer la vie chrétienne et les pratiques occultes. C'est ce que je vous disais par l'exemple il y a un instant. Et l'apparence des mots cache, eh bien là, une opération de séduction. Et elle se résume par un calcul mathématique. 98% de vérité et 2% de poison mortel. C'est pour ça que c'est bien enveloppé. Pour ça que les choses sont faites. D'erreur mortelle. Pour étayer une tromperie fumeuse. Illusion du bonheur. Il va me guérir. Il va me dire ce que ça va être demain, comme ça je vais pouvoir m'organiser. Enfin, bon. Il va ramener l'amour que j'ai perdu. Ouais. Quelquefois, il ramène pire. Hein. Terrible, hein. Parce que vous savez, c'est un transfert. Hein. Vous avez une chose? Il va vous le donner. Quand je parle du diable, il va vous le donner. Il est capable, hein. Parce que dans le palais de Pharaon avec, vous vous souvenez, avec Moïse, hein. Bah pendant 4 fois, les magiciens ont fait la même chose, ils ont contrefait les miracles. Donc il est capable de le faire. Il y a des gens qui viennent quelquefois, avec lesquels j'ai parlé, et on a fait l'expérience aussi, hein, dramatiquement. Eh bien, on peut dire qu'ils m'ont dit, mais voilà, mais il m'a dit la vérité sur mon passé. Et puis, il a fait ceci et cela, et j'étais venu avec une maladie physique, il m'a guéri. Et après, on a appris qu'ils étaient tombés dans la dépression jusqu'au bord du suicide. Quelquefois, ils ne se sont pas suicidés après. Transfert. L'homme est un être tripartite, physiquement, moralement, spirituellement. Il va vous prendre peut-être sur votre propre vie, ou alors il va le prendre sur la vie de vos proches. Ouais. Vous êtes guéri, vous. Mais votre petite fille, elle est malade. Votre femme a commencé à faire des crises de ceci et cela. Est-ce que l'on voit le rapport qu'il y a? On ne touche pas. On est loin de la parole du Seigneur dans le livre des Proverbes ou des Psaumes où il est dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Parce que quand Dieu bénit, il bénit parfaitement pour notre plus grand bonheur présent et éternel. C'est quelque chose. Ne nous laissons pas prendre au piège, comme le prophète Ésaïe le dira dans le chapitre 8 et au verset 19, il est dit ceci, parce que quelquefois l'invitation, elle est subtile même pour les enfants de Dieu. Si l'on vous dit aimablement, si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Ça, le sifflement, c'est le serpent, hein. Répondez fermement, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Vous avez des problèmes, tournez-vous vers le Seigneur et seulement vers le Seigneur. S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? C'est pas la peine de prier les statues et prier des gens que l'on appelle saints aujourd'hui et qui sont morts depuis longtemps. C'est pas la peine, c'est de la nécromancie, on invoque les morts à ce moment-là. À la loi et au témoignage, à la loi et au témoignage de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. On ne verra jamais la lumière, on ne verra jamais le jour, on restera dans la nuit. Moralement, psychologiquement, spirituellement, si ce n'est pas aussi physiquement. Entrer en contact avec Dieu ne se fait pas par l'intermédiaire de la divination ou des révélations soi-disant inspirées. Il nous est dit que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Est-ce que nous avons besoin de quelqu'un ? Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dans Jean, il nous est dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Je suis en train de faire de l'évangile, de l'évangélisation, mais il faut le rappeler. Et il nous est dit qu'elle procurait cette femme un grand profit à ses maîtres, les profiteurs du système. Vous avez vu que la magie, l'occultiste, la divination, les guérisseurs. Monnaie, monnaie. Business, business. Et il y en a qui se sont fait dépouiller, Ah, dites donc, quelquefois quand on entend des gens qui se sont fait avoir, mais j'ai donné 500 euros à chaque visite, non remboursés par la sécurité sociale, c'est un scandale. Ça devrait être dans le programme du nouveau gouvernement, Bah ouais. Profiteur du système, cette pratique donne l'occasion de gagner de l'argent facilement sur la crédulité et la souffrance des autres. C'est un abus de confiance qui... Bon, j'arrête là parce qu'autrement je vais me retrouver au tribunal. Encouragement à la crédulité, exploitation financière éhontée, on appelle ça du trafic. Je reviens pour faire une remarque sur le verset 16. C'est le début qu'on a lu. Comme nous allions à un lieu de prière. Écoutez bien, Paul et Silas allaient à un lieu de prière et ils ont rencontré sur le chemin, tiens, c'est curieux, je vais pour prier, il y a quelque chose qui va intervenir à ce moment-là. Un lieu de prière. Nous apprenons ici que les mauvais esprits ne supportent pas la prière des enfants de Dieu inspirés. Ils allaient pour prier, les disciples, avec peut-être quelques chrétiens qui les accompagnaient. Et ça, s'il y a une chose qui donne de l'eczéma et de l'urticaire au diable, c'est ça. Enfin, je suis en train de donner des... Je suis pas médecin. Lorsque l'on prie et qu'on est animé par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, c'est temps que nous prenons, et il va y en avoir un cet après-midi après le culte. Ouais. Il y en a tous les mercredis soirs, je le donne pour vous inviter. Et il y en a dans nos maisons également, ces temps de prière et ces lieux sont insupportables aux puissances des ténèbres. C'est pour ça qu'il y a des combats, c'est pour ça qu'il y a des luttes. Mes frères et sœurs, pour avoir des cultes remplis du Saint-Esprit, pour avoir des réunions d'évangélisation remplies du Saint-Esprit, dans la plénitude du Saint-Esprit, la première de toutes les réunions qui commencent par une vie d'église, dans la vie de l'église, c'est la réunion de prière. Et c'est la plus délaissée. C'est dommage, C'est dommage. Ah oui, je ne fais pas un reproche, Parce que c'est la liberté de chacun. Mais c'est là où on forge nos armes. C'est là où on affûte nos épées de l'esprit. C'est difficile la réunion de prière. Parce que ça se passe soit le mardi à Redon ou le mercredi. On a déjà 2 jours dans les jambes. On a eu souvent ce mardi-là toujours des soucis, des choses comme ça. On se dit, mais ça marche pas. Ben oui, mais il y a quelque chose. On arrive, on est fatigué. Mais il y a une chose que je voudrais vous dire pour vous encourager. Quand on repart de la réunion de prière, on est véritablement rafraîchi et on est en pleine forme. Je dis pas ça comme ça, Je veux dire tout simplement, c'est pour dire que ça fait du bien, la communion avec le Seigneur. Et si nous voulons voir, parce que quelquefois on entend « Seigneur fait des miracles » et tout ça, mais ça se fait ici, c'est dans la réunion de prière que ça se prépare. Et puissance de célèbres, et elles y sont dérangées, et elles sont menacées par la prière des enfants de Dieu, et elles sont irritées par l'invocation du seul nom de Jésus. On ne prie pas autre chose, autre personne, pardon. On n'a pas d'autre sujet que le nom de Jésus dans nos réunions. Et ce nom-là, eh bien, il fait trembler les puissances. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Ainsi l'esprit de domination. Esprit de domination, l'esprit de divination impur est chassé, parce que c'est un être le diable, pensant et intelligent. Il a bien compris ce que voulait dire Paul. Le diable, il parle toutes les langues du monde. Hein. Il parle en langue. Il parle toutes les langues du monde. Il y a une chose qu'il ne comprend pas, c'est le langage du ciel et le langage de Dieu. Mais il le comprend dans un certain sens, parce que quand on lui demande de sortir, il sort. Donc nous sommes là avec en présence d'un être vivant, pensant et intelligent. Paul lui dit « sort », il lui ordonne, et il va sortir, parce qu'il n'a pas le choix. La parole de Dieu est plus puissante que tout le reste. Et la servante, eh bien là, va se trouver libérée. Elle va redevenir une personne normale. Ses maîtres vont devenir fous, parce que, voilà, les dollars et puis tout le reste, ça ne viendra plus. Elle ne peut plus deviner. On va lui dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et c'est comme ça que Paul et Silas vont se retrouver immédiatement en prison. Lisez la suite. Hein. Ils vont être accusés. La conclusion est la suivante. La seule référence qui fait autorité, cette référence qui est toute puissante pour éclairer les consciences et dévoiler les agissements secrets du monde invisible, nous est donnée entre autres par une petite formule que Paul nous donne, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des principautés, des autorités et des esprits méchants dans les lieux célestes. Et l'Église a le pouvoir de les lier, de les dénoncer, de les neutraliser, et d'apporter aussi la libération à tous ceux qui sont tourmentés, y compris nous-mêmes lorsque nous sommes quelquefois eh bien mal pris. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, parce que c'est déjà fait à travers la victoire de la croix. Et cette autorité, c'est la parole de Dieu qui nous éclaire, qui nous fait connaître la vérité et que nous avons besoin de demeurer dans cette vérité. Elle démystifie, elle procure la foi qui nous libère de la peur et des liens mensongers sous l'autorité du nom de Jésus. Tant que vous avez peur de cette réalité, vous ne pourrez pas avancer, mes frères et sœurs. Vous devez être fort dans la victoire de Jésus, fort dans le triomphe que Jésus a pris. Il y a des gens qui ont tourné en rond toute leur vie, des chrétiens, parce qu'ils avaient peur du diable. Mais peur du diable? Mais écoutez, vous lui donnez ce qu'il y a de meilleur. C'est qu'il veut que vous ayez peur. Et c'est ce qu'on appelle de la superstition. C'est pour ça que les gens se promènent avec tout un étalage de tous des pendentifs, des gris-gris, toutes sortes de choses. Hein, c'est vraiment là, ouais, ça cliquote de tous les côtés. Voilà. Mais ça ne sert à rien tout ça. Ça ne sert à rien. Non, je touche pas. Bon. Vous avez remarqué, c'est pas du bois, hein, c'est de l'airain. Bon. Non, mais c'est vrai que les gens. Mais vous en souriez, mais les gens se mettent dans des situations, excusez-moi, mais ridicules, je ne critique pas, je constate, et c'est malheureux qu'on en soit comme ça. C'est notre foi qui nous donne d'être vainqueurs et de triompher devant toutes nos peurs et nos craintes. Alors, l'autorité du nom de Jésus, en mon nom, nous dit Jésus, vous chasserez les démons, car à défaut d'y croire, ce serait d'abandonner des malheureux et des malheureuses comme cette femme, à l'emprise des puissances dominatrices dans l'illusion, dans le mensonge, dans les trafics d'argent et dans d'autres liens de souffrance, et faisant croire par notre négation nous-mêmes que Jésus ne serait pas le Sauveur et le Seigneur. Pour nous, Jésus est le Sauveur et le Seigneur Tout-Puissant qui nous a été donné pour que nous puissions être vainqueurs et plus que vainqueurs. Or, le contraire est affirmé en ceci, quand il nous est dit dans Jean, chapitre 1 Jean chapitre 3 verset 8, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Mes frères et sœurs, nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Et qu'il y ait encore dans ce monde la puissance de l'Esprit qui passe, la puissance de l'Esprit de Dieu pour nous amener à Jésus-Christ. Parce que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Parce que nous croyons en effet, Père éternel, que tu es vivant, tu es puissant et tu nous aimes. Nous savons, Seigneur, que la haine appartient au diable et à ses puissances ténébreuses. Mais l'amour appartient à notre Dieu, à notre Père, à travers le nom de Jésus-Christ. et nous te bénissons et nous te remercions. Nous voulons te demander, Seigneur, que cette parole s'inscrive profondément au plus profond de nous-mêmes et que nous puissions vraiment l'intégrer. Tourner le dos, Seigneur, à toutes ces choses qui sont profondément mauvaises, dont l'inspiration, Seigneur, est une inspiration ténébreuse, et que nous n'ayons pas peur, en effet, de nous ranger sous la bannière de Christ. Et nous pouvons dire, comme dans le livre des Cantiques de Cantiques, « Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Et l'amour rassure, l'amour tranquillise, l'amour apaise, l'amour rend heureux. Eh bien, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Merci pour ton amour à la croix. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as dit, que tu avais vaincu l'adversaire. Et qu'en effet, Seigneur, si tu es venu sur cette terre, c'est pour détruire ses œuvres. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus, bénis ton Église. Bénis mes frères et mes sœurs qui seraient peut-être en fragilité par rapport à ce monde-là, mais qu'ils se rassurent, ils sont dans le royaume de Dieu avec Jésus, et ils n'ont rien à craindre. Merci mon Sauveur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.